Bien-aimé, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ça va, frères et sœurs en Christ? Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Oui, pasteur, nous sommes heureux, nous nous réjouissons dans le Seigneur, et ce malgré les combats, malgré les épreuves, malgré les souffrances, les besoins, les combats, malgré le Covid-19, nous nous réjouissons en Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, pour pouvoir bien méditer, recevoir de la part du Maître autant la parole destinée à notre enseignement, la même destinée à notre instruction, celle qui sera aussi conforme à notre édification, qui par son apport va aussi avoir la part d'exhortation nécessaire, enfin, le Saint-Esprit et notre Maître Jésus-Christ, c'est quelle direction donner à sa parole pour que véhiculée dans nos cœurs, eh bien, cette parole non seulement soit comme la nourriture au temps convenable, mais aussi comme possédant les éléments spirituels nécessaires à nourrir notre âme, à nous fortifier dans le Seigneur, et à nous donner un peu comme des ressources spirituelles renouvelées pour que nous puissions continuer sur le chemin de la persévérance. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons voir dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, et à partir du verset 1er, ce qui ressemble fortement dans la bouche de l'apôtre Paul, destiné aux frères et sœurs de cette église de Colosse, dont l'apôtre n'était pas nécessairement celui qu'il avait mis en place, puisque c'est pas Paul qui a été l'instrument dans la main de Jésus pour que cette église prenne naissance. D'après ce que rapporte l'Écriture, il se pourrait que ce soit Épaphras qui ait été l'instrument dans la main de Jésus pour que cette église soit créée. Mais l'apôtre, en prison, avait appris que certains faux docteurs étaient passés dans cette assemblée et malheureusement, y avaient apporté une doctrine erronée qui consistait à expliquer que entre le Dieu Tout-Puissant et les hommes, existait une multitude d'anges et que malheureusement, d'après leur doctrine, ils mettaient Jésus-Christ au rang des anges, au même titre que les anges. C'est pourquoi dans sa lettre, nous pouvons lire que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, vous ravisse à son gré le prix de la course. Ailleurs, toujours dans l'Épître aux Colosses, aux Colossiens, il veut mettre en évidence la prééminence de Jésus-Christ ou le différencier des anges, des hommes et de tout le reste. Le Fils est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Et ailleurs, pour expliquer encore les choses avec plus d'à propos, il mentionnera Jésus comme étant le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou de la connaissance. Donc c'est dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, qu'après avoir expliqué cela en mettant en garde les Colossiens, vous savez, lorsqu'il met en garde, il va parler de la proie. Par exemple, au chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Lorsqu'on parle de proie, obligatoirement, il y a la victime et le prédateur. Et vous savez qu'il y a un prédateur redoutable qui a aussi des éléments à côté de lui qui travaillent à son service. Le prédateur, c'est le diable. Mais il a aussi des démons, des mauvais esprits qui sont ses agents, qui circulent et sous ses ordres, qui ne cherchent qu'à détruire. L'ennemi ne vient que pour détruire ou égorger. Et béni soit Dieu, qui, puisqu'il a fait de nous ses enfants et que nous sommes objets de son alliance, nous assure par sa grâce une protection particulière. Amen. Pourquoi je vous dis cela, frères et sœurs en Christ? Mes appuis, mes références, c'est l'Écriture. Hein? Vous savez, peut-être que nous n'étions pas encore nés, nous n'étions même pas devenus enfants de Dieu. Mais un jour, Dieu a fait une alliance avec celui qui est considéré comme le père des croyants. Voilà, il s'appelle Abraham. Et la Bible nous dit qu'après ces choses, l'Éternel parla à Abraham et lui dit, « Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Au moment où je lui dis cela, il porte déjà en lui les promesses. La promesse, non seulement de faire de lui une grande nation, mais de faire de lui aussi le père de beaucoup de nations. Donc en puissance, nous sommes déjà compris dans ce que Dieu dit. Or, un bouclier, frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas, eh bien, un élément destiné à parer les coups de l'ennemi et à se protéger? Cela veut dire que quand Dieu dit cela à son serviteur Abraham, en prévision de ceux qui seront appelés dans les temps futurs, parce qu'ils ont la foi qui est en Abraham, mais dont la filiation est placée en Jésus-Christ, alors, c'est comme si Dieu disait déjà, ou entrevoyait, de se mettre entre l'ennemi et ses enfants. Car si Dieu ne nous protégeait pas, frères et sœurs en Christ, vous comprendrez aisément qu'il y a belle lurette, si je peux employer cette expression, que l'ennemi nous aurait déjà capoté, détruit, etc. Mais il cherche à détruire. Mais dites avec moi, au nom de Jésus, il est vaincu. Voilà. Et parce qu'il est vaincu, nous, nous sommes enfants de Dieu, par conséquent, nous sommes plus forts, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés et celui qui nous fortifie. Et celui qui nous a aimés, qui nous fortifie ce matin, il est au milieu de nous, il s'appelle Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 1er. Donc, nous avons vu la mise en place, et dans cette église de Colosse, Dieu nous donne un petit aperçu, non seulement de sa construction, de sa mise en place, mais malheureusement de la fausse doctrine qui y avait pénétré et des dégâts que ça avait fait dans certains cœurs, qui fait que l'apôtre amène cette mise en garde que nous avons lue et partagée succinctement dans Colossiens 2:8. Mais regardez avec moi comment le Saint-Esprit va amener l'apôtre à donner à sa pensée une autre direction qui est ô combien importante, non seulement pour ceux de Colosse, mais pour nous ce matin comme enfants de Dieu. Regardez avec moi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous dites amen?
Amen.
Bien. Mais il continue dans l'exhortation, verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et puis il explique la raison où il nous montre un petit peu d'où ça va découler à partir du verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et puis la finalité de ce qu'il nous dit, qui nous propulse spirituellement, autant dans l'espérance que dans ce qui nous est réservé, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que vous dites amen?
Amen.
Mais vous savez, frères et sœurs en Christ, quand nous lisons cela, chacun d'entre nous, nous pourrions fermer nos Bibles, dire merci Seigneur, et prendre la Sainte-Seine et puis aller plus loin. Mais Ce serait bien, mais le Seigneur a d'autres choses à nous dire. Parce que lorsque nous lisons l'Écriture, c'est vrai, certains ont leur niveau de connaissance, leur niveau de compréhension, mais le travail pastoral, justement, consiste, au moment du partage avec l'Église, de laisser le Saint-Esprit nous amener à aller plus profondément dans l'Écriture. De telle manière que, eh bien, comme le Saint-Esprit était en action lorsque Jésus a rencontré les disciples d'Emmaüs, eux qui avaient le cœur tout froid au départ et qui étaient attristés, au fur et à mesure que Jésus cheminait avec eux et que progressivement le Seigneur leur expliquait dans les Écritures tout ce qui le concernait en commençant par Moïse et les psaumes, la Bible nous dit que leur cœur qui était attristé, froid, dans l'incompréhension, progressivement, eh bien, le témoignage, ils l'ont sorti de leur bouche. Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous lorsqu'en chemin nous allions et qu'ils nous expliquaient les Écritures? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit permet que nous puissions entrer dans l'explication qui va être portée concernant un texte de l'Écriture, le Saint-Esprit entre en action où? Mais dans le cœur. Puis il permet que la connaissance fait qu'il y a un réchauffement, qu'il y a un bonheur, qu'il y a un développement spirituel, qu'il y a de l'assurance, qu'il y a des certitudes, comme quelque chose qui est ravivé à l'intérieur. Et c'est ce qui fait, mes frères et mes sœurs, que lorsque l'Église se rassemble, le Seigneur Jésus-Christ a toujours sa parole à nous donner. Amen. Donc, la première chose que nous allons considérer, c'est ce que l'apôtre est inspiré à donner dans ce texte que nous venons de partager. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Or, ce thème que nous venons de lire, ou derrière ce que nous venons de lire là maintenant, il y a à comprendre quelque chose qui est fondamental pour tout enfant de Dieu, et dans les Saintes Écritures, cela est mis en évidence comme une priorité, cela veut dire l'importance de la nouvelle naissance. Parce que la résurrection avec Christ est définie comme étant la nouvelle naissance. Et vous savez que derrière cela, frères et sœurs en Christ, la nouvelle naissance, ce n'est en rien une amélioration de ce que je suis en tant que Claude, un être humain. Non, la nouvelle naissance, c'est une expérience spirituelle que tout enfant de Dieu, repenti et converti, est appelé à expérimenter. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme nouveau a été créé, donc c'est une création de Dieu en nous, a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et quand le Saint-Esprit m'a amené à l'expérience de la nouvelle naissance, alors obligatoirement, il y a des choses en moi qui vont changer. Car si rien ne change quand j'ai rencontré Jésus, cela veut dire qu'il y a un grand problème. Et le problème n'est pas du côté de Jésus, mais le problème il est en moi. Mais béni soit Dieu, lorsque frères et sœurs en Christ, on est né de nouveau, il y a un travail du Saint-Esprit qui va constamment nous amener à nous affectionner aux choses d'en haut. Non seulement s'y attacher, mais aussi les rechercher. Pourquoi? Eh bien, nous sommes sur le terrain de l'enseignement de Jésus lorsqu'il a parlé à ses disciples dans ce qu'on appelle communément dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, 33, vous connaissez comme moi ce verset, c'est pas la peine de chercher. Jésus, après avoir montré à ses disciples de ne pas s'inquiéter pour les choses d'ici-bas, leur dira dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus ou par surcroît. Donc ça veut dire que quand je suis né de nouveau, il y aura toujours ce travail spirituel, l'action du Saint-Esprit pour m'amener, non seulement, comme je viens de le lire, à chercher, mais après avoir cherché, j'ai trouvé. Alors après avoir trouvé, je fais ce que dit le verset 2, je m'attache. Cherchez, Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Car celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, reçoit. Et on ouvre à celui qui frappe. Mais ça, c'est en rapport avec la prière. C'est en rapport avec la prière. Mais, en ce qui concerne ce que je viens de vous dire, quand je suis né de nouveau, c'est un autre principe. Le Saint-Esprit va me donner à rechercher les choses d'en haut. Et une fois que les choses d'en haut, je les ai cherchées, donc je les ai trouvées, alors je m'y attache. Je m'y attache fortement. Pourquoi? Parce que, frère et sœur en Christ, dans ce que je viens de vous expliquer, il y a quelque chose qui est une référence qui nous est montrée dans l'épître de Paul aux Romains. Par exemple, dans Romains, le chapitre 6, premièrement. Deux lectures dans Romains vont nous montrer l'importance ou ce qui va plutôt découler de l'expérience de notre résurrection avec Christ. Car on ne peut dissocier la résurrection de Jésus de, aidez-moi, mais de la mort de Jésus, on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas au préalable la mort. Alors regardez comment l'apôtre, dans l'épître aux Romains, va nous donner deux exemples importants dans ce même cadre. Par exemple, dans Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Par quoi? Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, dites avec moi, nous marchions en nouveauté de vie. Principe qui va amener la marche en nouveauté de vie. Et dans cette marche en nouveauté de vie, ce n'est pas autant l'énergie de la chair qui va prédominer, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Ma vieille nature va se complaire dans les choses d'ici-bas. Mais quand je suis né de nouveau, le Saint-Esprit en moi va m'amener à marcher en nouveauté de vie. Et cette marche en nouveauté de vie, frères et sœurs en Christ, n'est pas destinée à me faire moi-même me démarquer des autres, mais ce sera le travail, le résultat de la vie de Jésus en moi. Plus la vie de Jésus sera abondante en moi, mieux je marcherai en nouveauté de vie. Dans un monde de ténèbres, je marcherai comme un enfant de lumière. Parce qu'ailleurs l'apôtre dit, si vous avez reçu Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Oh, je sais que ce que je vous dis ce matin, mais certains ne sont pas encore parvenus à ce niveau-là. Mais puisque vous n'êtes pas encore parvenu à ce niveau-là, le Saint-Esprit va continuer son travail. D'autres, béni soit Dieu, dans ce cadre-là, ils ont fait de grands progrès. Béni soit Dieu pour vous. Mais même si vous avez fait de grands progrès, il y aura toujours un progrès en plus à faire. Et c'est même quand je serai devant les portes de l'éternité, il y aura toujours quelque chose en moi que le Seigneur devra améliorer. Si véritablement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez. Deuxièmement, attachez-vous. Car vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais c'est pas ce que vous êtes qui paraîtra. C'est quand Christ votre vie paraîtra. Ou quand ce que vous êtes en Christ paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cela veut dire que dès maintenant et dans l'aujourd'hui, Dieu travaille en moi, mais en vue de mon éternité avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, il y a dans nos vies comme enfants de Dieu des choses que nous ne comprenons pas. Et nous avons beau crier au Seigneur, il ne nous explique rien. Parce qu'il estime que, en tant que Dieu, notre Père, il est souverain sur nos vies. Parce que pour lui, c'est pas les choses, les quelques années d'ici-bas que nous avons passées sur la terre qui sont importantes, mais ce que nous sommes appelés à connaître avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et je comprends parfaitement la déclaration de l'apôtre aux Philippiens. Il va mentionner ces choses comme une persuasion spirituelle introduite en lui par le Saint-Esprit et qui devient une réalité même s'il ne le voit pas encore. Je suis persuadé, dira-t-il, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il nous sort des contingences des choses d'ici-bas, mais il nous place le terrain spirituel du travail que Dieu a commencé en nous, qu'il poursuit en nous, soit que nous vivions, soit que nous dormions, mais en vue de ce que nous sommes appelés à être avec le Christ pour l'éternité. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, frère et sœur en Christ, veut nous rappeler, eh bien, ce qui a été rappelé par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 55, que vos voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Forcément, nous voudrions que Dieu s'adapte à ce que nous vivons pour qu'il nous donne des réponses adaptées, pour que nous puissions eh bien, un petit peu sortir de notre ignorance. Mais des fois, Dieu ne nous dit rien dans ce qu'il fait. Parce que pour lui, c'est pas simplement une petite vie d'ici-bas, confronté à quelques épreuves, quelques souffrances qui sont importantes parce que le Maître Jésus nous rappelle que tout ce que nous connaissons, il l'a connu avant nous. Mais il nous voulait aussi nous rappeler que rien n'a pu l'arrêter. Lorsqu'il est venu sur la terre, il savait pourquoi il venait. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait, après qu'il eut fait ce que le Père l'avait envoyé accomplir, ce qu'il adviendrait de sa vie. Regardez avec moi dans Jean 17. Non, cherchez pas. Regardez-le dans Jean 17, s'adresser au Père depuis la terre vers le ciel. L'heure est venue. Maintenant, mon Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Il n'est pas encore passé par Golgotha, mais pour lui, c'est une évidence. J'ai achevé l'œuvre. Et après, vous allez voir qu'il va amener toute une chaîne de références qui va découler de ce qu'il est venu accomplir. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je l'avais dit, frères et sœurs en Christ, que tout le travail que Jésus est venu accomplir, n'oublions jamais qu'il est venu l'accomplir d'abord pour son Père. Mais il n'a pu l'accomplir pour son Père si ce n'est qu'en pensant à nous. Parce que c'était le moment charnière de l'histoire de l'humanité, il fallait qu'un innocent paye pour les coupables. La rançon devait être payée. Le châtiment qui nous était destiné devait tomber sur lui. Prophétiquement, il a dit, me voici, envoie-moi. Terminant sa course terrestre, dans Jean 19, 30, Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Dans derrière ce tout accompli, chacune de nos vies, comme enfant de Dieu ou comme futur enfant de Dieu, était déjà consignée. Voilà pourquoi ce matin, mes frères et mes sœurs, si vraiment nous sommes ressuscités avec Christ, affectionnons-nous aux choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite du Père. Et puis, je voudrais vous amener, bien-aimés, avec moi, dans ce qui va sembler aussi important, quand je suis mort avec Christ, nous avons vu le principe de la marche en nouveauté de vie. D'accord? Mais regardez avec moi la deuxième pensée qui accompagne cette réalité que nous partageons ce matin. Nous avons vu l'importance de la mort symbolisé par le baptême, en sa mort, baptême en sa mort. Mais après, il mentionne ici, dans Romains le chapitre 7, Au verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, dites avec moi. Ah ben voilà, la mise à mort. Mise à mort. Mise à mort par le corps de Christ. Vous avez été par le corps de Christ mise à mort. En ce qui concerne la loi, là nous sommes sur un autre terrain, la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Mais pourquoi? Ah, si ce principe de ma mort avec Christ et de ma résurrection avec lui permet que je puisse marcher en nouveauté de vie, c'est le même principe qui permet aussi que je puisse porter du fruit. Écoutez, quand je prends par exemple un grain et que je le mette en terre, dans ce petit grain, il y a déjà en puissance toute une vie. Mais mes yeux ne le voient pas. Mais c'est pas parce que mes yeux ne le voient pas que la vie est inexistante. Mais il va se passer un processus, c'est que ce grain va gonfler, la balle qui entoure le grain va éclater, et de ce grain va commencer à sortir un germe. Et ce germe, vous ne le verrez jamais pointer la tête vers le bas. Jamais. Mais lorsque ça commence à germer, progressivement ça sort de la terre, ça apparaît, et une fois que ça a apparu, ça va lever la tête toujours vers la lumière. Nous sommes toujours d'accord? Alors si tu es ressuscité avec Christ, lève ta tête vers la lumière. Cherche les choses d'en haut. Affectionne-toi-y. Ce sera la condition essentielle pour non seulement marcher en nouveauté de vie, sur le chemin de la persévérance. Et j'ose te dire, malgré les obstacles que tu rencontreras, malgré l'opposition de Satan, malgré la sollicitude du monde, malgré les séductions, malgré les tentations, malgré tous les artifices déployés par l'ennemi, le Saint-Esprit en toi te donnera la capacité. Oh, n'allez pas dire que ce sera tous les jours le beau fixe, hein? Mais non, c'est pas ça. Dans le baromètre divin, quand Jésus m'a appelé à la repentance et à la conversion, il m'a jamais dit, Claude, tous les jours le ciel sera bleu. Non. Mais ce que je dois comprendre, c'est que quand le ciel est d'airain, Jésus est le soleil qui est capable de percer les nuages pour m'éclairer. Quand le vent est contraire, il peut se lever pour dire au vent, silence. Quand les raz-de-marée se déchaînent, il peut dire, tais-toi. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il est avec moi, comme il était avec ses disciples dans la barque. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas, qui me surviennent, que j'ai tellement aimé éviter, mais le Seigneur les permet. C'est ce qu'on appelle le test de l'épreuve. Pour voir quelle attitude j'ai, comment je me comporte. Si parce que me survient une tribulation, je laisse tout tomber. Non, je suis pas un de ceux qui ont reçu la semence le long du chemin, ni dans les endroits pieux, ni dans les ronces et les épines. Mais j'ai reçu Jésus-Christ dans la bonne terre de mon cœur. Alléluia. Et quand j'ai reçu Jésus dans la bonne terre de mon cœur, alors un grain va porter 30, l'autre 60, et l'autre porte 100. Ça veut dire que je porte du fruit pour la gloire de mon Dieu. Non seulement du fruit, mais je porte du fruit qui demeure. Et le premier fruit que je vais porter, c'est le fruit digne de la repentance. Parce que mon maître s'est engagé. Je suis objet de son alliance.
Je suis dans sa main. Il a les yeux sur moi. Alors je ne vais rien laisser qui s'interposera entre lui et moi. Et même quand quelquefois des obstacles se dresseraient, le Seigneur me donnera quand même la capacité d'avancer malgré ces obstacles. Parce qu'il est avec moi. Il est mon Dieu. Il est mon maître. Et je me confie en lui. Alors j'avance. À Timothée, dans 1 Timothée le chapitre 4 au verset 8, l'apôtre va donner une exhortation qui n'est pas du tout négligeable. Il dira à Timothée, Timothée, exerce-toi à la piété. Pourquoi? Parce que l'exercice corporel, Timothée, est utile à peu de choses. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit qu'il est inutile, hein? Faire un peu d'exercice physique, ça fait pas de mal. Ça dérouille la vieille carcasse. Quoique, vous savez, le corps, il est très fainéant, hein, le corps. Bon, je vois, enfin, je prends mon cas, je sais pas pour vous, hein, mais je vois qu'il y a quelque temps, moi, tous les matins, je prenais mon vélo, j'allais faire une bonne heure de vélo, et après, maintenant, les heures passent, mais le vélo, j'aimais prendre mon vélo, puis, pour ceux qui connaissent un peu le secteur où j'habite, il y a le canal de Loup, une piste cyclable, et puis j'y allais. Mais à un moment donné, sans que le corps n'est... Mais ça veut dire que c'est utile à peu de choses. Bon, ailleurs, c'était la marche. Bon, je fais un petit peu de marche. Bon, mais quand, à un moment donné, le pied devient de plus en plus lourd, alors... Mais enfin, bref. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit c'est la vieillesse. Hein. Je n'ai jamais prononcé ça, non. Mais ça lui ressemble un peu... Non, mes bien-aimés, vous savez, quoi qu'il en soit, on a beau se faire de l'illusion, la parole de Dieu nous rattrape toujours. Notre vieil homme, il se corrompt, se détruit. Mais l'homme nouveau en nous se renouvelle à l'image de celui qui l'a créé. Donc, un qui se bonifie pour le ciel, et malheureusement, un qui... Quoi? Il fait quoi? Ah ben, il va vers son terme. Parce que, après la transgression, Dieu l'a bien expliqué. Adam, c'est avec peine que tu tireras ta nourriture de la terre d'où tu es sorti jusqu'au jour où tu retourneras à la poussière. Parce que tu es? Ah. Et tu retourneras à la poussière. Donc, s'il parle de résurrection, c'est spirituel. Que je suis né de nouveau, une résurrection spirituelle qui fait que le Saint-Esprit met en moi des valeurs divines, une aspiration aux choses d'en haut. Alors cherchez, attachez-vous. Et vous allez voir, frères et sœurs en Christ, qu'à partir du moment qu'il a dit, tiens, revenons à Colossiens 3, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur Jésus m'a fait voir tout à l'heure. Quand? Tout à l'heure. Où? Dans mon bureau. Donc ça veut dire que, frères et sœurs en Christ, il y a la part du Saint-Esprit, comme je viens de vous l'expliquer, mais le Saint-Esprit en moi va en quelque sorte m'entraîner sur le terrain spirituel, sur le terrain divin. Et il va m'amener à saisir quelque chose qui ne doit pas me faire défaut. Par exemple, pour montrer ce qui va découler ou ce qui doit découler de ma résurrection avec Christ, de mon affection aux choses d'en haut, de mon attachement aux choses d'en haut, il lit au verset 5. Verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Faites donc mourir. Cela veut dire qu'il m'engage dans un combat. Et ce combat sera entre mon vieil homme et l'homme nouveau. Mais oui, parce que s'il faut que je fasse mourir, ça veut dire que je dois rentrer dans le combat. Je dois faire ma part. Ça veut dire ne pas laisser ce qui est de ma vieille nature prendre le dessus sur ce que veut faire en moi le Saint-Esprit. Donc c'est un combat que je vais mener dans la prière, dans la vie de piété,
dans un engagement spirituel à chercher la face du Seigneur pour que progressivement ceux qui voudraient s'attacher à moi comme de la boue s'attache aux chaussures, le Saint-Esprit m'amène progressivement à m'en débarrasser. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des années. Parce que frères et sœurs en Christ, notre vieille nature n'est pas du tout décidée à se laisser faire. Oh, je pourrais vous donner des exemples, mais ce n'est pas le temps ce matin. Laissons le Saint-Esprit nous amener sur l'Écriture. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Pas la peine que je vous lise la liste. Vous pouvez la lire chez vous comme moi. Verset 8. Mais maintenant, à renoncer. Le renoncement à certaines choses qui, si je ne fais pas attention, vont s'installer en moi comme une routine. Mais cela n'est possible qu'à partir du moment où je suis né de nouveau. Frères et sœurs, que je vous dis quelque chose ce matin, ne soyez pas étonnés de ce que je vous dis. Je peux avoir remporté une victoire aujourd'hui dans ce cadre-là, mais ce n'est pas une garantie de succès constant. Parce que ce dont j'ai triomphé aujourd'hui doit revenir à l'assaut demain. Il faudrait que demain encore je combatte pour triompher. Et ce que je vous dis là, c'est tout au long de la vie chrétienne. Renoncez. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant quoi? Dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Ça veut dire que non seulement il y a le vieil homme, mais il y a aussi les œuvres du vieil homme. Mais quand je suis né de nouveau, alors la spiritualité, le travail du Saint-Esprit en moi m'engage à entrer dans un combat jusqu'à ce que je remporte la victoire. Oh, pasteur, ce matin, j'étais pas venu pour entendre ça. Ah bon? Tu étais venu pour entendre quoi alors? Quelque chose qui flatte ta chair? Qui flatte ton ego, qui te caresse dans le sens du poil? Excusez-moi du terme. Mais justement, non. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous parle, il agit pour que de plus en plus, il nous responsabilise. Et ceux qui me donnent de l'espérance, c'est que quand Jésus me dit quelque chose, il ne me dit jamais quelque chose qui est au-dessus de mes capacités, mais il me dit quelque chose dans lequel il va s'engager à m'aider. C'est ça, un berger. Ça va toujours? Ah, que Dieu soit béni. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous savez, la vieille nature, frères et sœurs en Christ, quelquefois, elle est tellement subtile dans son action. Mais quand je cache la vérité sur une situation, ou que je dise le contraire, pour essayer de me justifier, certes, je vais essayer de me justifier peut-être devant l'autre. Mais devant Jésus, c'est quoi? C'est un? Voilà. C'est un mensonge. Et quand le mensonge commence à s'infiltrer dans ma vie comme enfant de Dieu, certes, ma vieille nature va essayer de retomber sous ses pieds, mais il n'y a pas que ma vieille nature, il y a l'homme nouveau en moi, et en plus de l'homme nouveau, j'ai une conscience où Jésus, où Dieu parle, où Dieu m'éclaire, où Dieu maintenant m'approuve, où Dieu me désapprouve. Alors quand je fais le bien, frères et sœurs en Christ, selon Dieu, le Saint-Esprit m'approuve, ma conscience m'approuve. Mais quand je laisse le mensonge pénétrer, s'infiltrer, m'amener même à la dissimulation, c'est un point, il s'installe comme un malaise en moi.
Ce malaise dure jusqu'à ce que je comprenne que j'ai mal fait. Parce que le malaise qui m'a amené à mal faire, résultat de ce que j'ai mal fait, fait que ma conscience est souillée. Or, si ma conscience est souillée, cela va constituer un frein à ma marche spirituelle. Un obstacle sur mon chemin de la persévérance. Un boulet que je vais traîner au pied. Donc j'ai besoin d'aller trouver Jésus et lui dire la vérité. Quand j'avoue mes transgressions et que je le délaisse ou que j'ai besoin de faire des progrès dans ce cadre-là, le Seigneur voit que je fais une image spirituelle, instructive et intelligente. Et puisqu'il connaît la sincérité de mon cœur, qu'il sonde avec mes reins, il me dit, Claude, tu as bien fait, alors je vais t'aider. Mais si j'adopte une attitude qui consiste à faire l'autruche, je mets ma tête dans le sable, mais si je mets ma tête dans le sable, non, frères et sœurs en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Et celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière veut que nous disions la vérité chacun à son prochain. Oh, je sais que dans le monde, on dit, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je dis non. En tant qu'enfant de Dieu, toute vérité est bonne à dire.
Amen.
Dis la vérité, selon mon cœur. Parce que je ne la dis pas devant les hommes, je la dis devant Dieu. Je ne cherche pas une demi-vérité pour essayer de me justifier, car une demi-vérité, aujourd'hui, une demi-vérité demain, à la langue, ça deviendra un gros mensonge. Gloire à Dieu. Aïe, 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 ce matin, pasteur gentil, eh bien, non, c'est pas pasteur gentil, il faut pas regarder le pasteur, il faut écouter ce que Jésus dit. Il faut pas regarder le pasteur, il se retire. Mais il laisse le Saint-Esprit l'utiliser dans la main de Jésus comme l'instrument que le Seigneur a destiné ce matin et qu'il veut bien dans sa grâce manier selon sa volonté. Verset 12 pour conclure. Ainsi donc, donc comme des élus de Dieu, on n'est pas le commun des mortels, on n'est pas l'homme de la rue, nous sommes de vrais adorateurs que Dieu, lui, dans sa grâce, a fait de nous, utiles à son service, témoins de Jésus-Christ, disciples, y faisant tout ce que nous pouvons pour ressembler à notre Maître. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, faites-vous la tête jusqu'à... Anne, c'est pas ça? Alors, si c'est pas ça, pourquoi on le fait alors? Eh bien, on le fait quand c'est la vieille nature qui nous conduit. Mais c'est quand c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, voici ce qui se passe. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que l'Église dit Amen? Alors maintenant que tu as dit Amen, pratique. Oui, avec l'aide de Dieu, ma petite sœur, c'est toujours... Mais oui, c'est avec l'aide de Dieu, parce que c'est avec l'aide de Dieu, le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est quand je suis né de nouveau. C'est quand je suis conduit à m'affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Pourquoi? Parce que je suis mort et parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Résultat, quand Christ, ma vie paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. On savait dire dans ce que nous partageons ce matin, le Seigneur est en train de nous montrer tout le travail qu'il a commencé, mais aussi le travail qu'il poursuit, le travail qu'il désire poursuivre, pour amener les choses à leur finalité. C'est ça qu'on appelle aller de, voilà, de progrès en progrès. Oui, de l'avant, mais de progrès en progrès selon le terme biblique. Et le progrès en progrès, c'est pas parce que je suis pasteur. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que mon frère est ancien. C'est parce que nous sommes en Christ. Oui. Tu n'es pas pasteur, mais tu es en Christ. Et le Saint-Esprit qui habite en toi n'est pas ni oisif, ni stérile. À moins que tu ne l'aies bâillonné dans un coin de ton cœur et tu l'empêches de s'exprimer. Mais quand l'apôtre Jean dans 1 Jean 1:20 nous parle, aux petits enfants, il dit, petits enfants, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et lorsqu'il nous parle d'onction, n'allez pas croire qu'il nous parle d'une puissance qui va nous faire tressaillir, trembler, que nous puissions... Non, c'est pas ça. Derrière ce mot onction, il y a plus à discerner quels sont les attributs que le Saint-Esprit va amener, qu'il va utiliser lorsqu'il est venu habiter dans nos cœurs. Vous connaissez les attributs que le Saint-Esprit va amener? Oh, je ne vais pas vous donner beaucoup puisque le temps nous manquerait. Mais je vous donne 2 principaux. Il est venu habiter en nous et il n'est pas venu les mains vides. Il a amené les arts de l'esprit. Quand je dis art, c'est une petite partie de ce qui se vit déjà dans le royaume de Dieu que le Saint-Esprit va commencer à développer en moi. Bon, tout à l'heure, je vais, si on a le temps, vous amener à voir ça avec moi dans l'Écriture. Deuxièmement, il est venu avec un sceau. Il est venu et il m'a marqué d'un sceau. Oh, je ne vais pas encore vous refaire la même image et vous donner ce qui découle du sceau, à moins que vous ne vous manifestiez. Là, c'est une manifestation particulière, frère. Eh bien, le sceau nous confère 3 choses. Premièrement, quand le Saint-Esprit est venu nous marquer du sceau, le premier qui l'a marqué du sceau, c'est Jésus. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, celui que le Père a envoyé, qu'il a marqué de son sceau. Donc Jésus a été marqué du sceau divin. Bon, mais nous, quand le Saint-Esprit est venu habiter nos cœurs, il est venu avec le sceau. Le sceau nous confère 3 choses. Le sceau nous parle premièrement de la conclusion du contrat. Le contrat a été conclu. N'est-ce pas? Le sceau nous parle deuxièmement du signe de la propriété. En nous marquant d'un sceau, Dieu dit maintenant, désormais tu m'appartiens. Mais il y a une troisième chose. Le sceau nous parle du gage de la sécurité. Ah, je vois que des crayons sont en train de circuler. Alors, je répète. Le sceau nous parle premièrement de la conclusion du contrat. Le contrat de la nouvelle alliance a été conclu. Pourquoi? Parce qu'il a été signé avec le sang de Jésus. Tout document officiel n'est valable que s'il y a le sceau de l'organisme. Alors Dieu a authentifié les choses. Le contrat a été conclu. Puisque le contrat a été conclu, la nouvelle alliance a pris son effet. Et ce matin, nous sommes bénéficiaires. Deuxièmement, le sceau nous parle du signe de la propriété. C'est-à-dire, Dieu me dit que désormais, Claude, tu es à moi. Tu m'appartiens. Tu es mon enfant. Et troisièmement, le sceau nous parle du gage de la sécurité. Dieu s'est engagé à me protéger. Alors, de quoi ai-je besoin d'autre? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ah! Frères et sœurs en Christ, je vous donne encore une lecture. Une lecture qui se trouve, peut-être 2. Oui, 1 ou 2, et après nous allons pouvoir prendre la Sainte Cène. Mais toujours dans l'optique de si je suis ressuscité avec Christ, si je suis né de nouveau. Philippiens 4 au verset 8. Philippiens 4, verset 8, comme quelque chose qui va découler comme une réalité de la nouvelle naissance. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est ce qui découle de la vérité. Ce qui est honorable, ce qui permet que Dieu soit honoré. Honorable. Ce qui fait honneur à Dieu. Ce qui est juste. Tout ce qui va amener la justice de Christ. Tout ce qui est pur. Et si c'est pur, automatiquement, ça ne peut venir que de Dieu. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce que Dieu approuve. Ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et puis l'apôtre dit, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et après, et le Dieu de paix sera avec vous. Cela veut dire que tout ce que nous avons lu en amont sera déterminant pour ma communion avec mon Dieu. Alors, pasteur Gentil, si dans la liste que vous venez de nous faire lire, il y a un qui me fait défaut, est-ce que pour autant ma communion avec Dieu sera altérée? Non, pas nécessairement. Mais dans l'affection aux choses d'en haut, quand Dieu voit que les choses d'en haut prennent de plus en plus de l'intérêt pour toi, eh bien, ce que tu ne peux pas faire, Dieu va le faire pour toi, pour que tu en profites. Et voici la conclusion, frères et sœurs en Christ. Enfin, qui c'est qui a dit enfin? Vous êtes pressés de partir. Voici la conclusion. L'ensemble de tout ce que nous venons de lire là, eh bien, la conclusion se trouve dans juste la page d'à côté ou le chapitre précédent. On le trouve dans Colossiens 3, au verset 20. Regardez avec moi, mes bien-aimés. C'est comme si dans tout ce que nous venons de partager, le Seigneur voudrait nous montrer, Jésus voudrait nous montrer le pourquoi du comment et l'importance de ce qu'il vient de nous dire. Pourquoi? Mais nous sommes citoyens de Paris. Comment ça vous dites non? Oui, la plupart nous sommes des citoyens de Paris. Nous sommes parisiens, même habitants en banlieue. Oui, mais ça c'est pour la vieille nature. Mais oui, nous habitons pour la plupart à Paris, en région parisienne. Moi j'habite en région parisienne, Île-de-France, etc. Nous sommes dans la région parisienne. Donc nous sommes citoyens de la région parisienne. Ça c'est pour la terre. Mais, quand le Seigneur nous parle de la sorte, c'est pour mettre les choses spirituelles en avant. Mais nous sommes citoyens des cieux. Oui, là on peut dire amen. Et c'est des cieux d'où nous attendons aussi. Ça c'est Colossiens, le chapitre 3, verset 20. J'ai entendu dire quel... Oh, Philippiens! Philippiens 3, 20. J'avais dit Colossiens? Ah ben oui. J'ai dit Philippiens 3, 20. Ah ben alors, écoutez, là je suis en balance. Et j'espère qu'il n'y aura pas de ballotage. Parce que certains disent que j'ai dit Philippiens 3, 20, d'autres disent que j'ai dit Colossiens 3, 20. Bon, écoutez, c'est pas compliqué. Je prends tout sur moi. Comme ça va être clair. Mais là, je vous redis, Philippiens, le chapitre 3, verset 20. Et si vous aviez écouté, j'ai dit juste la page à côté. J'ai dit la page à côté. La page à côté, on est à Philippiens 4, il n'y a pas Philippiens 5. Non, c'est la page à côté. Bon, écoutez. Écoutez, on va pas se battre. Nous sommes dans la présence de Jésus. Je vous répète, Philippiens, le chapitre 3, verset 20. Là, tout le monde est d'accord? Alors, dites amen. Amen. Bon, alors, on lit l'écriture. On va pas se laisser distraire, hein? Voilà. Voyons ce que notre maître dit pour conclure le sujet de ce matin. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir. Si véritablement je suis né de Dieu, alors le Saint-Esprit me conduira à m'affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père, non seulement à les chercher, mais après les avoir cherchés et trouvés, je vais m'y attacher. Et vous savez ce qui va se passer? Plus je m'attache à elle, plus elle s'attache à moi. De telle manière que le Saint-Esprit progressivement va les rendre vivantes en moi, et si le Saint-Esprit les rend vivantes en moi, alors je vais vivre par elles parce qu'elles sont vivantes en moi. Oh, c'est une manière de m'exprimer que vous avez entendu souvent dans la bouche du pasteur Gentil, mais c'est un peu le principe divin dans lequel Dieu nous introduit. Prions le Seigneur.